analyste. C'est par exemple, on ne conçoit pas qu'une analyse sociologique puisse s'appliquer à un individu singulier, par exemple.
Et d'ailleurs, le problème, c'est qu'en fait, c'est une analyse qui est aussi pour un
voilà, on pense que s'il le fait.
C'est pour le réduire, hein.
Ouais, c'est pour le réduire.
Pour les assembler d'autres. Hein.
Voilà, voilà. Décrire sa singularité. Alors, j'ai essayé, c'est pour moi très, très difficile parce que, je ne sais pas comment dire, c'est difficile à communiquer puisque tout ce que j'ai fait, c'est construit contre ça. Il n'y a rien de plus difficile que de raconter ce contre quoi on a pensé. Et on a dit, il est souvent derrière de mettre dans ce qu'on écrit, ce qui fait qu'on a compris ce qu'on a encore lu à travers ce contre quoi on écrit. Alors, je prends l'exemple de Flaubert, je pense aussi bien, je reprends aussi bien l'exemple de Heidegger. Pourquoi faut-il s'intéresser pour comprendre Flaubert à l'ensemble de l'univers dans lequel était immergé Flaubert? Parce que l'ensemble de l'univers, parce que l'ensemble de l'univers social, comme vous croyez, la sociologie actuelle, mais ce que j'ai essayé d'introduire, c'est l'idée que ce qui est pertinent, ce qui est déterminant pour comprendre l'écrivain, à partir d'une certaine époque, quand on se réfère ici, mais en tout cas aujourd'hui, c'est l'univers des écrivains. C'est-à-dire qu'un écrivain écrit, qu'il le sache ou non, qu'il le veut ou non, par rapport à l'univers des écrivains, ou plus exactement par rapport à l'univers des problèmes possibles pour un écrivain étant dans son insertion dans un univers qui, par lui-même, fait problème. Parce que chacun fait des choses différentes. Par exemple, plus du même coup, l'espace des écrivains fonctionne comme un système de phonèmes. Je dis que ça, c'est une boutade, mais les écrivains sont comme des phonèmes. Ils existent par la différence, même s'ils ne cherchent pas du tout à se différencier. Michel Chaillot a des choses qui vont tout à fait dans ce sens. Un écrivain n'écrirait pas s'il pensait que ce qu'il écrit a déjà été écrit. Il écrit presque par définition, non pas pour être autrement, mais parce qu'il est autrement, parce que ça mérite, mais parce que ce qu'il mérite d'être écrit, il n'est pas redondant, il n'est pas pléonal, il y a des choses déjà écrites. Alors, ce faisant, il se différencie, si vous voulez, de Canet, qui est inspiré par la recherche de la distinction. Et il est inscrit dans un espace de gens qui en font tout le temps. Et comprendre ce qu'il fait, c'est comprendre le système de différence entre tous les gens. Alors, ce système de différence existant à la fois dans l'objectivité, il y a ici les écrivains, on peut avoir ensuite le chef de l'univers publié, il y a d'autres publiés chez Gallimard, chez Villard, on peut leur demander. Une dizaine de questions filtres à partir desquelles on aurait une connaissance assez grossière, mais assez fortement prédictive du type d'écriture, du type de problème qui les intéresse, du type qui les intéresse pas, etc. Et cet espace de différence objective, assignable à des propriétés, des couvertures de livres, ce qu'on perçoit du milieu, on voit avec les coups d'œil. Que sous telle couverture, on ne peut pas trouver ça. De même qu'on sait que quand on a écrit certaines choses, on n'a pas de raison de l'envoyer ici, de l'envoyer là, de l'envoyer en ces moments, etc. De toutes ces choses. Alors, je pense que tout écrivain inscrit dans ce qu'on appelle le champ littéraire a une maîtrise pratique, un sens pratique, enfin, ne serait-ce pas comme un bon joueur de football, a une maîtrise pratique du terrain, sinon il serait tout de suite en jeu. Alors, c'est connaissance de cela me paraît, alors oui, il a de connaissance de cette distribution, de propriété, et aussi de ce qu'on appelle l'espace des possibles. Je vais donner aussi deux secondes. Je pense que cet univers des écrivains, à chaque moment, secrète en quelque sorte un univers de manière possible, déjà réalisé ou potentiellement réalisé, de faire. Du travail d'écrivain. Il y a des choses qui étaient impensables au XVIIe siècle, qui deviennent pensables aujourd'hui. Elles n'étaient pas inscrites dans l'espace des possibles. Et je demande pardon pour l'abstraction de ce que j'ai dit. Mais en fait, c'est extrêmement concret. Maintenant, pour comprendre Flaubert, c'est vrai que Flaubert, bizarrement, plus je connais l'espace des possibles dans lequel se situe Flaubert, et par rapport auquel il se situe en grande partie explicitement. Il parle du théâtre bourgeois, du temps. Il parle pratiquement de la propriété, me semble-t-il, la plus extraordinaire de très très grands écrivains, c'est qu'il se situe presque consciemment par rapport à la quasi-totalité des positions pertinent de l'espace dans lequel ils sont insérés. Alors que les petits écrivains se situent par rapport à un tout petit secteur de l'espace et n'appréhendent qu'une toute petite partie de l'espace possible. Et donc, plus je situe Flaubert comme un point dans l'espace, plus la singularité extraordinaire de Flaubert m'apparaît. Autrement dit, bizarrement, parce que c'est presque bien définitionnel, mais encore, plus je réduis un point de l'espace, un point de vue sur cet espace, plus l'extraordinaire singularité de son point de vue m'apparaît, et plus il apparaît miraculeux d'avoir été Flaubert. Alors que si je m'immerge dans l'œuvre de Flaubert plus dans sa singularité, comme fait la prétendue histoire, conforme aux vœux de l'écrivain qui veut voir tête unique, pour traiter de manière unique, Irène, tout, etc., plus au fond du moi, j'ai eu la vision, c'était intéressant. Alors, donc, voilà, c'est un paradoxe qui a été évoqué, de la particularité. Là, je n'ai fait que développer une théorie de l'espace qui a été développée par Nice, qui disait de l'espace est l'ordre de coexistence, qui a été reprise par les philosophes modernes comme Strawson, qui dit que l'espace est un lieu de coexistence de points. Donc, chaque écrivain, quand il le veuille ou non, est un point dans un espace. Un point d'une singularité extrême, un point singulier. Mais pour saisir la singularité de ce point, il faut le situer par rapport aux autres points. Après, une analyse, c'est tout ce que disait Dominique. Alors, c'est désagréable aux écrivains, mais ça vaut aussi pour les sociologues. Ça vaut aussi pour les philosophes. Alors, les sociologues, ils le savent. Et il faudrait que les écrivains le sachent, parce que je pense que nos très grands écrivains le savent à leur manière. Je ne sais pas si j'ai bien argumenté, mais c'est difficile pour moi.
J'ai la raison perfide que vous sentez dans un champ, dans un espace, une partie. Vous allez dire que c'était l'étrange écrivain, soit vous avez pas, vous êtes
poisson. Non, pas dit ça.
Je ne sais pas. Non. Ce qui me paraît. Je veux dire, j'essaie de comprendre ce que je fais quoi, en écoutant le Pierre Bourdieu. Et je me disais au fond que toute œuvre est porteuse d'échecs, en fait. Que toute œuvre réussie est un échec. C'est-à-dire qu'il y a une. C'est même ça, paradoxalement, une œuvre réussie. C'est-à-dire celle qui n'est pas parvenue à. Et elle est aquiléenne, toujours. Je veux dire, je m'excuse de revenir à ce personnage qui, pour moi, est fascinant. Et je pense que toute grande œuvre est du côté d'Achille, et pas du côté d'Ulysse, malgré Ulysse de Joyce. C'est-à-dire qu'il y a une impétuosité et une tentative vers le possible, qui n'arrive jamais à son terme. Et c'est pour ça que la phrase, très souvent, je pense à Flaubert, à la fin de l'éducation sacramentale, nous avons voyagé, etc. Et ça, c'est des phrases, brusquement, qui sont comme des rappels du roman. C'est comme si tout le roman s'engloutissait là. Continue encore 3-4 pages, mais sans que l'on roule, je crois, c'est encore cette piste. Et donc, c'est pour ça qu'au fond, si j'essaie d'expliciter ma position, c'est pour ça que la notion de genre, je dis bien qu'il faut bien des genres, je sais bien qu'il faut des hiérarchies, mais mon travail à moi, c'est de les mettre en question tout le temps. Au XVIIIe siècle, la poésie n'existait pas apparemment. Elle était réfugiée, elle était dans la prose. Est-ce que c'est vrai? Il faut aller voir d'un peu plus près. Voilà, il y a plein d'éléments comme ça qu'on n'arrive pas à gouverner. Parce que quand j'écris, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le sentiment géographique, j'ai mis 6 ans à mettre en place, qui est un livre sur rien. Mais j'étais revenu par une oreille interne qui me disait que tu ouvres la page de la street, tu entends le bruissement des pages, 5000 pages, et tu fais de ce bruissement un livre. Alors bien sûr, c'était très difficile, j'ai donc resté un an sur 3 pages. Et en même temps, j'avais le sentiment d'écrire ma propre lecture, débarrassée de l'ombre de son écriture. Je veux dire que j'écrivais ce que je lisais. Et comme je ne lisais rien, il ne restait plus que l'acte de lire. Comme la poésie, ça, on pourrait presque dire que c'est pas l'acte, comment dirais-je, c'est une affaire de mémoire. Mais c'est une mémoire sans souvenir, puisque les souvenirs qui sont traduits ici ne sont pas individuels. C'est l'acte de mémoriser on ne sait quoi. Et peut-être que là, d'une façon générale, la littérature, c'est ça. C'est pour ça que moi, quand je fais des livres, c'est mon cas, j'ai beaucoup de difficultés, parce que j'ai beau avoir une idée de ce que je vais raconter, puisque c'est autobiographique, je sais ce que je veux dire, et brusquement, les mots disent autre chose. Et tous les mots que j'emploie, donc comment arriver à concilier cette espèce de possible, l'infinité de possibles que m'offre le langage et le possible que j'avais imaginé, qui me paraît bien creux et rudimentaire par rapport au possible ouvert par le langage. Et alors, c'est compréhensible que dans une collection, j'essaye de. Enfin, moi, j'ai fait ça, d'autres ont fait autre chose, d'autres auteurs de la collection ont fait autre chose. Moi, dans le petit guide Ténèbres, pourquoi petit par une modestie affirmative, par une modestie orgueilleuse. Pédestre, parce qu'on est toujours piéton de la phrase, et être piéton, c'est plus près de la terre, c'est plus proche, c'est être dans le familier. C'est la familiarité, c'est la possibilité que vous avez avec une chose, et que l'ombre de cette chose vous reste dans la main. Si vous êtes familier avec une cruche, l'ombre de la cruche est dans la main, vous savez comment la saisir, votre main a déjà la cruche. Donc la familiarité, c'est on gagne du sens. Au fond, tout mon travail est de gagner du sens, tout le temps. Tout le temps.
Merci. La parole est à vous. Est-ce qu'il y a un micro derrière, je suis curieux si vous avez la parole, parce que.
Je voudrais faire simplement une petite remarque et poser une question à chacun des deux personnes qui nous ont expliqué leur point de vue. La première remarque, c'était pour peut-être demander à Pierre Bourdieu de ne pas aller trop vite en besogne lorsqu'il s'inquiète de l'effet de l'accent régional sur les salons de symbolisme. Et là, ils sont pas si mal tirés que ça, c'est de Paul Valéry et qui est une 7 tout à l'heure. Bon, on peut difficilement généraliser à plus de choses. Mais plus sérieusement, je voudrais savoir, Pierre Bourdieu, d'abord, comment vous comptez, mettant en place la méthode que vous dites, éviter, sur ma petite préface à cette question, je suis américain de métier, et ce qui se passe en traitant la littérature de métier. Les États-Unis m'inquiètent infiniment. Par conséquent, je voudrais vous demander comment vous songez éviter. Alors, je vais pas dire l'idéologie, parce qu'on est toujours dedans d'une certaine manière, mais comment vous évitez d'avoir des filtres strictement référentiels pour définir vos points. J'entends par là, parce que vous définissez la spécificité, vous avez dit par le choix des points de vue, par la spécificité, par leur exclusion mutuelle, par la nature des choses qui sont dites, par les idées autrement. Alors, à ce sens-là, l'idéologie du référentiel, qu'est-ce que c'est vers là que vous nous emmenez, et sinon, qu'est-ce qui vous en protège, parce que et la question que j'adresserai à Michel Chailloux est un petit peu complémentaire. Dans la mesure où on parle de temps oublié, et très, très joliment, pourquoi vous estimez que des hiérarchies n'ont pas lieu d'être là, comment reconnaît-on un auteur justement oublié, un auteur injustement oublié, et n'y a-t-il pas de lieu pour établir un certain nombre de hiérarchies de valeurs auxquelles vous avez dit par ailleurs que vous aimeriez s'attacher?
Ça peut être la personne de la famille, etc. On va le faire directement. Bon, quel que soit le propriété, évidemment, ils ont des études, ils ont des études sociales, ils ont des études de tel salon ou tel autre, ils ont fait des études ou tel autre. Alors, déjà, il faut déterminer les thématiques qui paraissent pertinentes parmi celles-là, ça peut être celles qui ont un rapport potentiellement avec ce qu'ils écrivent, ce qu'ils disent, etc. Par ailleurs, il y a ce qu'ils disent. Il y a ce qu'ils disent, il y a ce qu'ils croient,
dire, de ce qu'on dit, etc. Bon. Le point de vue stricto, contre le jeu de Leclerc, c'est un peu plus en réalité, des contrats sur la population, au contraire, qui ont pu dire que la fin de la respective, l'espace de la chambre d'acteurs français, autant de ça, on a pu dire le chambre français comme des choses en colère, on a pu dire le chambre français, la même chose à la fin de la journée terrain dans les années 1880, mais les choses sont relativement simples, parce que, par exemple, on voit quels sont les principaux principes de vision, on voit sur quoi les gens se trouvent. Les revues auxquelles ils sont revenus, les revues qui ne sont pas formellement classées. Alors, je ne l'oublie pas, les auteurs à la revue après les écrits. Il y a bien des qualités que vous puissiez nous prêter, parce que quand on travaille pendant des années, des années, si on voit des tenues là, on se fait toutes les auditions possibles, et si on ne se fait pas, on trouve quelqu'un qui le fait. Donc, ne postulez jamais contre la nouvelle. De nous faire condamner très difficilement. Donc on se pose des questions et ensuite on cherche des relations avec ces choses-là, des relations intelligibles et en même temps explicatives. Mais là, ce que j'ai dit ne va pas beaucoup mal parce qu'il faudrait un exemple. Enfin, je pense que ce type de démarche fait disparaître peut-être parmi les oppositions les question, par exemple, entre les conditions sociales et ce dont on peut s'exprimer. Nous aperçoit, par exemple, que selon la force qui nous existe, le jour nous a dit deux fois, à travers les propriétés des auteurs, l'origine, leur relation, leur réputation, etc., et à travers leur œuvre. Ce qui est une chance, parce qu'on peut constamment confronter ce qu'on apprend à lire les œuvres, ce qu'on apprend en lisant les signes tels que l'âge, dans une certaine mesure, je sais que c'est un peu clair de quoi on parle, mais les écrivains n'ont pas le droit. Donc je crois que je peux pour une fois faire preuve d'argent. Les écrivains sont particulièrement faciles à étudier parce qu'ils sont particulièrement naïfs sur, sur ce qui est libre de même dans leur culture, dans leur gestion de leur biographie. Dans la présentation de même, etc., etc. Et peut-être que ça paraît paradoxal, il n'y a bien que les philosophes qui sont plus naïfs. C'est-à-dire Oui.
La musée, je le sens beaucoup moins.
Oui, alors ça dépend à quel moment, à quelle époque. Enfin, les artistes, pour avoir une certaine catégorie d'artistes contemporains, jouent avec les critères sur lesquels on doit volontiers pour les analyser. Ce qui fait qu'ils sont particulièrement sophistiqués et ils sont beaucoup plus malins, en fait, que par exemple les écrivains. Mais on peut aussi les piéger. Enfin, on ne peut même pas que le but soit de les piéger, le but est de les comprendre. Je voulais dire ça comme ça pour donner une idée de ce que nous faisons. Est-ce que je ne dis pas tout ça dans une logique agonistique pour être le supporter du monde qui va faire ça? Je dis simplement que, de façon générale, grâce à Dieu, les écrivains sous-estiment les sociologues. Et c'est la théorie des jeux, hein. C'est principalement pas la théorie des jeux, c'est de supposer toujours que notre adversaire aura la meilleure stratégie. Donc, si les écrivains étaient sociologues, moi j'ai vu comme ça un dialogue public avec le privé, et qui est tout même pas non plus en côté. J'espère qu'il sera un jour publié.
Je vais répondre à votre question.
C'est pas du tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux dire tout de suite, alors que pour qu'il n'y ait pas de j'aime pas la perspective, hein, j'aime pas du tout. Je ne pense pas du tout à ce qui s'est passé aujourd'hui, mais je pense que la stratégie de Michel Sarrazy, stratégie de l'IA, était très 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 sophistiquée. Il a donné guère plus à ce que j'ai dit à l'instant.
Je vais répondre à votre question concernant les oubliés de la hiérarchie, je vais essayer. C'est-à-dire que ce que j'ai oublié peut-être de dire tout à l'heure, c'est que je mets en cause la hiérarchie parce que dès qu'elle est nommée, il y a des choses qui gênent dans la hiérarchie. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas de classification. Simplement que je peut-être que par rapport aux commentaires ou par rapport à l'œuvre d'art est dans les lignes et le commentaire est dans l'explicite. j'ai oublié ma littérature, je me suis rendu compte, c'était une raison d'être de cette collection, je me suis rendu compte que ce qui était très difficile à percevoir, c'était la manière dont les gens lisaient les écoles de Clermont. Et qu'il y avait un imaginaire de la lecture fantastique porté par les œuvres, et pas seulement par les œuvres, par des morceaux de papier écrits à une époque. Et que parfois, avec moins de morceaux de papier écrits à une époque qui ne touchaient pas les œuvres, brusquement, on apercevait peut-être plus de choses de la lecture du temps que dans l'œuvre, parce que l'œuvre, en fait, réussit, n'a pas besoin de son lecteur à travers ses inaltérables que les temps. Alors qu'une œuvre qui souvent a beaucoup de succès à une époque disparaît avec l'époque qui va lui naître, parce qu'à leur insu, c'était les lecteurs qui apportaient l'air dont l'œuvre avait besoin pour respirer. Et une fois cette génération de lecteurs disparue, c'est fini, Paul Bourget, par exemple, les romans du divorce, le Salon d'Annie, pourquoi le Salon d'Annie, pourquoi cette alliance entre la rue Servandie et le divorce, pourquoi Henri Bordeaux, Pierre Benoît, j'ai lu tout ça, bien sûr, aussi. Avec beaucoup de charme, d'ailleurs, ça a toujours beaucoup de charme. Donc il y a ça. Alors en définitive, c'est cet imaginaire de la lecture qui est difficile à saisir. Et une des raisons pour lesquelles j'essayais dans le petit livre de l'Est et dans la collection de multiplier les terrains de l'approche autour de l'œuvre sans, en m'approchant de l'ombre de l'œuvre sans jamais la saisir vraiment, en laissant au lecteur le soin de la lire, de réveiller seulement les ombres autour des livres, c'était justement parce que j'essayais de percevoir par mon propos l'imaginaire du temps. Et c'est pour ça que c'était du roman, parce que même bien que j'ai fait des tonnes de lectures, donc, je veux dire, j'ai assimilé plein de choses et j'essayais d'entrer en sympathie. Il y avait une poule de sympathie dans les effectifs, j'essayais d'entrer en sympathie avec le temps. Parce que si j'arrivais à trouver le point de vue du temps sur l'œuvre, à ce moment-là, je faisais un travail magnifique, c'est-à-dire que ça changeait la vision un peu de l'œuvre. Je prends un exemple, Georges Scudéry. Georges Scudéry, moi j'ai beaucoup de sympathie pour Georges Scudéry, j'ai toujours des sympathies contre temps. Et c'est un homme qui, dans les historiettes de Talmud de Réau, est présenté comme marchand. C'est vrai qu'il y a tout un truc, on disait que c'était une sorte de souteneur de sa sœur, c'est elle qui faisait tout le travail, c'est lui qui est un cocher. Et c'est pas vrai, il avait beaucoup de talent aussi. Et par exemple, dans le port du Havre, il marche devant un âge, c'est Talmud de Réau qui raconte ça. Et il marche d'une manière tellement sauvage et intrépide, une jeune veuve, arrivant sur le port, et séduit par son allure martiale, et l'épouse, et ils auront deux enfants. Cette anecdote pour moi est formidable parce que quand j'ai relu Talmud de Réau, je me suis aperçu qu'il y avait une espèce d'envergure héroïque dans lui, dans sa générosité, dans ses défaillances, dans le cafouillis parfois de son œuvre, mais parfois dans une œuvre. Quand une phrase est imprécise, je ne dis pas ça qu'il faut que toutes les phrases soient imprécises pour être réussi, mais quand une phrase est imprécise alors que d'autres le sont, brusquement on a l'impression que. Qu'il y a comme un trou dans l'œuvre et que l'accro dans l'œuvre, l'œuvre en profite autour. Et que le grand art, c'est qu'il y ait de temps en temps des accros. Oui. Alors, en définitive, il n'y a pas d'auteur oublié. Vous m'avez posé une question objective sur les auteurs oubliés. C'est-à-dire, c'est des auteurs qu'on n'a pas réveillés. Je préférerais le mot réveiller à oublier. Et on ne peut pas lire tous les auteurs. Par exemple, M. Aperçut, on ne disait plus, très peu de gens, sauf les spécialistes, les épîtres en vers de Théophile de Vieux. Et c'est peut-être parmi les choses les plus belles qui ont jamais été écrites. Et donc, tout mon travail est d'essayer de rendre compte de cela avec approximation, hésitation, bégaiement, doute, aucune certitude. Si vous écrivez le mot certitude, il est déjà évidemment. On peut pas, une œuvre, c'est jamais certain, c'est toujours mon travail. En chemin, même une fois produite, elle est en chemin, en travail dans l'œuvre du lecteur. Je dis l'œuvre du lecteur parce que c'est son œil qui l'a recompose. Donc il n'y a pas d'oublier, il y a des gens qui n'ont pas été réveillés. Et il faut abandonner ce point de vue des histoires de littérature qui ressemblent. Quand on voit les manuels scolaires, ça me tue moralement à chaque fois. On voit ces défilés de Pierre Thomas avec des phrases creuses, générales, qui n'ont rien à voir avec la littérature. Et c'est ça que les professeurs achètent, alors ça me tue. C'est autre chose la littérature, c'est une activité beaucoup plus sauvage. Plus intrépide, il faudrait leur rendre, et les enfants spontanément sentent que c'est souvent intrépide. Comment se fait-il qu'ils ont toujours l'impression quand ils rencontrent un écrivain qu'il est mort, que les écrivains vivants sont pourquoi c'est Manuel qui habitue la fréquentation des cimetières ne facilite pas l'approche de la littérature.
S'il y a d'autres questions, Sociologue est naïf, il ne se posera que des questions naïves, qui sera la de questions, et les questions qu'on lui posera, il leur rendrait, comme tu as entendu tout à l'heure, ce à quoi il avait déjà la réponse, de sorte que la vérité est plus grande. Et il me semble que, empiriquement, on peut quand même considérer qu'un certain nombre de sociologues, peut-être parmi ceux qu'il a nommé lui-même tout à l'heure, peuvent être mal taxés de naïveté, qui est un peu important, les exonérer, non, mais systématiquement. C'est la type, je pense que c'est une type qui consiste à avoir une question sociologique.
Vous l'avez reçu, ok.
Je vais vous répondre un mot là, avec une question très très brève. Hein, mais non, je pense que vous pourrez arriver, parce que je n'ai pas du tout dit ça, j'ai dit simplement que les écrivains. L'interrogation sociologique qui fait seulement partie de la naïveté, apparemment, et un bon questionnaire avec quelqu'un qui accepte de passer pour un problème, la peine de faire. Et je vous dis, les écrivains prêtent particulièrement le flanc parce que. Tout en cultivant la naïveté, ils sont souvent bardés de certitudes héritées, de croyances qui tiennent à la logique même de l'espace social dans lequel ils se trouvent et dont leur métier même est l'incarnation. Et donc, de ce fait, c'est facile à faire tomber dans les pièges de la naïveté. Parce que c'est tout ce que je voulais dire. Et je n'ai jamais le rendre à la vie qui a créé là, il n'y a pas grand malheur. Je pense que j'ai dit simplement que les objections que les écrivains peuvent adresser à des auteurs, même triviaux comme Lucas Tolman, etc., qui sont largement dans le passé, sont au-dessous des questions que ces gens se sont posées, parce qu'il faut métier de se poser des questions dans le risque. C'est de même que j'écoute Chadou quand il dit moi j'ai métier de travailler avec la langue, c'est faire d'écoute. Bon. Mais j'accepte, je demande que les écrivains acceptent l'écoute quand je dis j'ai métier d'essayer de comprendre pourquoi en fait tu nous plais. Et vous ne pouvez pas, sans prétention, sans arrogance, vous constituer, étant autodidacte dans ce domaine, de ce genre, alors, il est évident que vous avez le droit de prendre toutes les défis. Et je peux vous dire que ce sont là qui sont des réalités. C'est vraiment une chose élémentaire. Je ne sais pas, on peut continuer à l'infini, c'est du ping-pong idéologique. Je pense que les exemples que j'ai pris de Flaubert, de Faulkner, etc., attestent que j'accorde à l'écrivain plus même que l'écrivain de mon s'accorde. Donc, on ne peut pas normalement accepter ça. Ce que je n'accorde pas aux écrivains, c'est le droit d'être vu de la réalité sociale. Ceux qui s'arrogent très très volontiers en contestant la possibilité même d'une objectivation de leur pratique. Et ça, je ne vois pas ce qui m'autoriserait à leur accorder ça. Je ne veux pas prolonger là parce que je ne veux pas monopoliser le plateau. Mais en ce sens, j'ai dit ça un peu vite, parce que c'est un propos de sociologue parlant un peu à la légère devant le public. Il y a artistes et artistes, il y a écrivains et écrivains, et les artistes et les écrivains se distribuent de façon différenciée sous le rapport de ce que j'appelle l'analyse, que je pourrais préciser, je pourrais, le rapport de l'analyse sociologique. C'est-à-dire sur le rapport de la naïveté concernant la vérité sociologique de ce qu'il faut. Et ils se distribuent de façon très, très, très différenciée. À la fois dans un instant déterminé, d'une nation à l'autre, d'une époque à l'autre, etc. Et c'est une, il n'y a pas de réponse globale, il y a une réponse empirique. Mais je pourrais, par des exemples, pris dans mes travaux ou dans d'autres, essayer de différencier. On voit maintenant prendre sa queue, je prends cet exemple-là, il a exposé ici, est quelqu'un qui, en artiste, fait un travail quasi sociologique, tout en étant artiste. Et j'aurais pu le citer au même titre que la Faulkner. Je vais répondre à vos questions.
S'il y a d'autres questions, le monsieur. Il était mort dans le. Donc vous savez le second. Non, il y avait quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui lève le bras, les deux bras, les trois bras là. Dans le désespoir total. Ah.
Je voulais juste en même temps ce qui était l'objet du débat ce soir, dire que finalement la différence entre Bourdieu et Chaillot, c'est que l'un Bourdieu a lu Chaillot et en parle, et l'autre. N'en parle pas de Bourdieu et Chéré, ce n'est pas en dehors du fait que l'un est sociologue et l'autre est écrivain, mais parce que l'un est sociologue et l'autre est écrivain, peut-être, puisque c'est peut-être le métier des écrivains que de parler d'eux et de ne se réclamer que d'eux-mêmes ou de leur singularité. N'empêche qu'on est un petit peu déçus de n'avoir pas vu du tout M. Chaillot se demander ce qu'aurait pu être une sociologie de la littérature, de s'y frotter un petit peu, ne serait-ce que pour dire que ça n'intéresse pas, qu'il ne veut pas entendre parler et pourquoi, mais. Ce blackout sur la sociologie m'a paru un petit peu difficile. C'est difficile de faire une lecture étant donné l'objet du combat de ce soir.
Alors je vais vous répondre tout de suite, rapidement. Je vais vous dire très, très honnêtement, j'ai essayé j'ai lu Pierre Bourdieu, bien entendu. Je n'ai pas tout lu. J'ai lu la distinction, la question de sociologie. Et il y a longtemps que j'ai lu Pierre Bourdieu. Et le problème, c'est que, pour moi, il était difficile de vous rendre compte d'une démarche en improvisant sociologue dans une soirée, alors que ça demande des années d'études. La seule chose dont je sais parler, et c'est pas parler de moi, si je fais une collection, c'est pas seulement parler de moi, mais d'ailleurs, un écrivain dans son œuvre, c'est que lui, si son œuvre est réussie, et si son œuvre n'est pas réussie, c'est lui, ça c'est sûr. Donc, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut le voir. Je crois que c'est répétisser énormément les interventions pour y voir d'un côté les écrivains qui ne parlent que d'eux et les sociologues qui ont la modestie de parler des écrivains. C'est tout simplement par humilité, par respect d'autrui, que je n'ai pas voulu m'aventurer dans un champ que je connaissais mal et dont je n'avais que des appréhensions récentes, je veux dire au niveau de mes lectures. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Quant à la grande question de la naïveté, moi, je pense que toutes les approches en littérature qu'on a sont très importantes et qu'elles sont porteuses d'une théorie comme l'épée dans le fourreau et que les œuvres sont contenues des théories qu'il faut expliciter. Mais mon travail à moi, c'est que je suis romancier essentiellement, enfin, romancier, donc j'invente des fables. Maintenant, pour parler des fables, je n'ai pas l'intelligence du propos autre, je ne peux inventer que des fables pour parler des fables. Et donc, j'aurais pu inventer une fable de la sociologie, mais j'aurais pas pu faire une approche, j'aurais pas pu en deux heures me rendre de sociologue. Et donc, je crois, mademoiselle, que vous êtes méprise sur notre attitude, sur mon attitude, je veux dire, c'est la fatigue. C'est tout à fait, au contraire, un très grand respect pour Pierre Bourdieu qui m'a incité à être ainsi.
Et
Et je voulais dire simplement à titre personnel que dans mon témoignage, j'ai ressenti ça comme ça.
Voilà. Il y a les dernières questions, peut-être monsieur, mais il y avait monsieur en noir et puis monsieur au bras blanc. Je ne vois pas grand-chose dans la sécurité, je vois les tâches. Alors monsieur au bras noir, voilà, et monsieur au bras blanc. Non, parce que c'est pour les raisons de l'enregistrement du débat.
Pierre Bourdieu a parlé du milieu sociologique de la littérature en disant que certaines œuvres, notamment proposées parfois de façon dissimulée, etc., involontaire, les analyses sociologiques très fines, mieux que certaines œuvres sociologiques, apprendront par ailleurs. Alors, je voudrais poser la question à l'inverse, c'est-à-dire est-ce qu'on peut, comme on parle de la sociologie de la littérature, pour parler de la littérature dans la sociologie, au fond, c'est-à-dire que si la sociologie pourrait faire de la littérature son objet d'étude, en quelque sorte, pour faire l'histoire de la littérature, est-ce que chaque œuvre sociologique aussi, chaque grande œuvre sociologique, et je fais exprès de poser la question de façon un peu caricaturale, ne propose pas, pour donner son savoir, précisément un voyage dans la langue, de façon absolument indispensable. C'est-à-dire, est-ce que cette naïveté est un petit peu question aussi, mais pas aussi celle du sociologue, au fond, qui fait aussi un travail dans la langue, et son travail ne consiste pas simplement, comme il pourrait facilement le croire, de proposer un savoir, un sens.
Maintenant, si effectivement ça peut arriver rapidement, c'est un lecteur, quand je dis mon mot, l'extrême complexité de sa phrase, la façon qu'il a de répondre aux objections de la phrase, etc. Et au-delà de ça, je voudrais vous signaler, donc ce texte dont je parlais en ouverture, qui va apparaître dans quelques jours, dans le numéro 90 de l'acte de recherche en sciences sociales, qui introduit une série de témoignages, enfin, sous le titre générique de la souffrance, des témoignages de gens ordinaires, comme on a dit. Et il y a cette préface que j'avais communiquée ces jours-ci, c'est-à-dire la traduction de la fonction d'analyse, où il compare finalement le travail d'interview de ces gens, d'entretien avec ces gens, justement au travail de construction de récits, de construction d'une nouvelle, et il parle du sociologue comme écrivain public, parce que finalement, d'une certaine façon, je lisais mentalement ce texte cet après-midi, remplaçant le mot sociologue par le mot écrivain, parce que c'est strictement, mais là, c'est presque une définition de la littérature, il y a tout de suite. On est constamment dans ce texte qui est un texte plus en sur cette question, on est constamment là-dedans, mais aussi, évidemment, donc, je lisais dans le livre de la distinction, notamment la vie aussi, un livre de littérature, absolument. Et aussi, même dans la complexité de la culture, ça s'apprend de l'ouvrant, notamment dans notre présence. Bon. Alors, je ne sais pas si je vais faire un peu mais là, je dirais qu'un lecteur qui est toujours, parce qu'il y a une ligne, je pense qu'il ne peut pas dire oui, je suis un peu. Donc, par définition, pour la lire. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, mais en tout cas, c'est pas ce que je veux le faire, c'est pas une question de l'objet, même si on m'a quoi, c'est pour le temps de mentir, puis c'est un des titres d'angle qui s'accorde à ce que j'ai traité. Mais non, je pense que le problème de l'écriture sociologique est un problème très réel, et je pense que le sociologue se bat aussi à sa façon avec la langue, mais avec des contraintes qui ne sont pas les mêmes que celles qu'évoquait par exemple Michel Philippe tout à l'heure. Alors, une des difficultés que nous avons dans nous, c'est que nous devons essayer de réveiller des expériences, de réveiller un regard sur le monde social que le langage ordinaire interdit. C'est-à-dire que nous avons un état qui s'en allait avec des mots, soit le langage commun, soit le langage journalistique, soit le langage savant de notre propre discipline, qui font écran. Qui font écran à la vision que nous voulons proposer à nos lecteurs au terme du travail que nous avons fait pour évacuer ces préventions, ces pré-perceptions, ces préjugés, etc. Et donc, ça donne un travail de la langue tout à fait spécial. Le Michel Chahut parlait tout à l'heure des parenthèses, je ne peux pas lire ces parenthèses. J'ai souvent en contact dans ma tête des parenthèses au plus avec des parenthèses de Max Weber. Absolument rien à faire, à voir, Max Weber a un style absolument terrifiant, horrible,
C'est-à-dire, c'est un homme qui veut pas avancer un mot sans dire qu'il peut, mais pourquoi je dis ça? Alors, on va penser que c'est pas possible de m'attribuer à l'extérieur, moi je ne pense pas que c'est ça. Et ces parenthèses ont une fonction d'introduction d'un métadiscours dans le discours. C'est un effort désespéré pour contrôler la lecture et dire à chaque instant, voilà, j'ai cadré comme ça. Et le débat. Alors, il y a ce problème-là, et il est vrai que tout d'un coup, il ne peut pas prétendre du tout à une écriture telle qu'elle est célébrée dans la littérature. Un des sacrifices de la patronne, qui sont très très visibles, la première question de savoir, c'est le sacrifice de ce qu'on appelle la jolie écriture. Parce que souvent, des choses qui paraissent désagréables, même à ceux qui les écrivent, pour pouvoir communiquer. Les acquis. Alors, vous imaginez, quand on écrit sur l'écriture, par réflexion, il y a obligé d'être pédestre. C'est extrêmement pédé, parce qu'on tient un but, on va au plastique. Voilà, alors, c'est pourquoi je suis parfois un peu agressif avec les écrivains, je leur dis oui, si vous saviez la tête qu'on y avait pour faire une phrase simplement plate, vous seriez plus en vigueur pour notre écriture et vous ne vous serviriez pas du côté de la sous-écriture pour récuser a priori ce que nous pouvons dire à la vôtre. Voilà. C'est ça. C'est ça. Je sais que je réponds à la que je vous ai tout à l'heure. C'est pour ça que vous m'arrive d'être un peu nerveux parce que je pense que c'est la nervosité de celui qui part battu. Je dis souvent, les apparences sont toujours pour l'apparence, parce que l'homme sait d'avance que dans le discours avec des écrivains, il a contrôlé toutes les apparences. C'est pourquoi il est un peu nerveux.
La jolie écriture, c'est terrible, parce que c'est même l'embûche. Il ne faut surtout pas de jolie écriture.
Moi, je vais vous dire. Dernière
question.
Un bras
blanc. Un bras blanc, oui, un bras
blanc.
Alors, sans placer vraiment au départ dans l'optique de cette confrontation, sans rentrer vraiment dans ces politiques que je trouve un peu seules, je poserai en particulier une question à M. Chaillou, parce qu'il avait évoqué au cours de son discours un fleuve qui devait traverser les langues dans leur particularité, dans leur beauté. Et je voudrais lui demander particulièrement si ce fleuve ne serait pas cet universel singulier. Du purement sensible ou de l'impurement sensible, puisque ce sensible est en fait une insatisfaction permanente. Ce fleuve qui donc traversant toutes ces langues, ne serait pas comme une objectivation interne de l'homme face à son existence, la dualité, une sorte de maladie d'être, comme l'évoquait assez bien Hegel, quand il disait que toute détermination était négation, et que en fait, cette négation était une sorte d'universel qui justement toucherait. L'homme dans son universalité. Et ne pourriez pas vous rejoindre sur ce point en disant que justement pour avoir une communauté de réflexion en même temps peut-être plus intéressante et plus profonde du fait que vous ne luttiez pas l'un contre l'autre mais l'un avec l'autre.
C'est une question très difficile, mais. Mais je vais essayer de. Enfin, je vais vous dire ce que je pense. J'ai employé tout à l'heure l'expression métaphore conseillère. C'est-à-dire que j'essaye, c'est pour ça que j'écris le roman, je n'ai pas de théorie. Mais je me dis que Dylan n'est pas contre la théorie. D'ailleurs, je pense que c'est une des ambitions les plus nobles que d'essayer de penser l'art et la littérature. Ça extraordinaire. C'est pas ça, mais simplement, moi, je ne peux répondre aux fables que par des fables. Et donc, l'histoire du fleuve dont je vous ai parlé. C'est l'expression la plus récente de mon approximation. C'est-à-dire que, en définitive, je n'ai pas eu le sentiment de lutter contre Pierre Bourdieu. J'avais le sentiment qu'on disait par des voies différentes, des choses différentes et parfois semblables. Simplement, moi j'étais peut-être plus. D'ailleurs, je ne sais pas si je suis un écrivain, je ne l'affirme pas. Vous savez, on n'est jamais sûr d'être un écrivain et dans un livre. Qu'est-ce qui a été vraiment écrit, qu'est-ce qui a vraiment marqué et entaillé l'écorce de la langue, on n'en sait rien, c'est l'avenir qui le dira, en l'occurrence le lecteur et la survie des œuvres. Donc, moi j'ai essayé de vous rendre compte, car c'était la seule chose que je savais faire, donc je crois, plus ou moins,
C'est-à-dire d'essayer d'organiser à partir de... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec, sur la notion de naïveté. Pour moi, la naïveté, c'est quelque chose de... Je trouve ça très bien, la naïveté. Je veux dire, c'est la fraîcheur du monde, c'est ce qu'il y a de plus... c'est ce qui est immédiat et qui ne passe pas par le pouvoir réflexif, c'est l'instantané dans l'esprit de la marque qu'une chose vous a faite ou un être. Et je trouve que c'est... Et si les écrivains sont naïfs, c'est parce qu'ils font, ils sont étonnés d'être. Et c'est pour ça qu'ils écrivent. Cet étonnement d'être qui pourrait être la naïveté, c'est leur roman. Et je trouve ça très, très émouvant, plutôt qu'autre chose. Alors pour revenir à votre question très, très complexe, j'ai oublié, je crois. C'est la porte.
Celui qui n'oublie pas.
L'universel singulier. L'universel singulier. Oui, mais moi je n'ai plus ça depuis très longtemps. Et donc, je ne dis pas que Sartre n'est pas intéressant, mais puisqu'il n'est pas trop fort, j'ai lu Sartre quand j'étais adolescent, mais je ne l'ai plus pour longtemps, c'est le premier qui n'est pas intéressant, mais le mouchement intérieur.
Absolument, il y a réussi les deux de ce dialogue qui a eu lieu.